Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et tous les jeudis, le réveil culturel est consacré au polar. Bonjour tout le monde. Depuis quelques années, Romain Slocombe, mon invité donc de ce matin, promène le plus odieux des flics dans une série de polars qui se déroule pendant l'occupation. Roman très bien documenté, on pourrait même dire ce sont des romans historiques, mais il y a d'abord cette trame de polar avec des meurtres, des enquêtes et de tous les ingrédients que nécessite ce genre. Le sinistre inspecteur des renseignements généraux qui traverse cette série s'appelle Léon Sadorski et le troisième roman de la série, édité par Robert Laffont dans sa collection La Bête Noire, vient de sortir.
Le réveil culturel. Jeudi, polar.
Bonjour Romain Slocombe.
Bonjour.
Alors, vous allez vivre avec cet inspecteur qui est vraiment, comme le dit d'ailleurs très bien la présentation de votre éditeur, le pire des salauds et le meilleur des enquêteurs.
Ben, je commence à être habitué à lui. Je sais exactement comment il va réagir dans telle ou telle circonstance. Il est assez différent de moi parce que c'est un policier d'abord, un fonctionnaire de l'État français. C'est même plus la République, c'est l'État français sous Pétain. Et il travaille aux renseignements généraux et il est en charge de ce qu'on appelait dans ce service le rayon juif, c'est-à-dire de la traque des juifs. C'est le grand spécialiste. Il se fait un plaisir, évidemment, on contrôle l'identité. Tous ceux qui n'ont pas l'étoile jaune, bien qu'ils aient le kip juif, sont mal barrés. Ils sont barrés en général pour Drancy.
Et très souvent, il n'agit que pour ses propres intérêts. C'est-à-dire, c'est même pas quelqu'un qui applique bêtement des ordres.
Oui, c'est un peu un loup solitaire dans son service. Il est détesté d'ailleurs de ses subordonnés qui l'engueulent copieusement. Et il a une morale assez spéciale à lui et même ses opinions politiques. En fait, c'est pas un collabo au sens, c'est pas un pro-nazi du tout. Il déteste les Allemands. Il les trouve d'ailleurs bête en plus d'être arrogant. C'est un pétainiste, c'est un non relativement jeune, il a 42 ans à 43 ans et c'est un ancien combattant engagé volontaire en 14-18. Et donc il croit à la révolution nationale, au maréchal Pétain, il croit surtout à l'ordre évidemment et tous ceux qui l'arrêtent c'est parce que ce sont des menaces pour l'ordre public, mais il croit aussi à ses propres fantasmes et notamment à son obsession sexuelle pour une lycéenne juive qui cache maintenant dans ce troisième épisode, il la cache dans son appartement, il la fait passer pour sa nièce.
Et en prenant des risques d'ailleurs. Hein.
Il prend des risques, ouais, justement, il fait quelquefois des choses totalement inattendues, je dis pas que ça le rend sympathique, mais en tout cas, il agit pas comme sa hiérarchie s'attend à ce qu'il agisse. Et donc, on sait pas très bien, et d'ailleurs les gens qui contrôlent sur la voie publique ne savent pas très bien comment il va réagir, et le lecteur non plus, il va soit embarquer la personne, soit à la surprise de l'intérêt lui dire « Allez, foutez-moi le camp ».
Il est redoutablement intelligent, surtout ce Léon Sadorski.
Ouais, je pense que même plus que de l'intelligence, c'est plutôt de la ruse. Parce que s'il était vraiment intelligent, peut-être qu'il resterait pas aussi longtemps du côté des perdants. C'est-à-dire de Vichy et des collabos. Il résisterait, par exemple, en douce, comme certains de ses collègues commencent à le faire. Non, il est entêté. Et puis, il va évidemment se retrouver dans des histoires d'enquête, des affaires, etc., qui mènent d'une manière extrêmement opiniâtre. Je dirais que c'est surtout quelqu'un de très teigneux. Et puis, il va tomber sur des histoires où il ne croit pas trop ce qu'on lui a dit. Par exemple, au début du roman, un flic pourri vient dénoncer une juive et il trouve l'histoire louche, en fait. Donc, cette juive va être arrêtée. Mais en fait, il va voir aussi son propre intérêt. Et puis, selon les rebondissement de l'histoire parce qu'il y en a beaucoup. Chaque fois, il réagit au quart de tour pour essayer de se tirer des mauvais pas ou quelquefois il se hasarde.
Sadorski est l'ange du péché. C'est le titre donc de ce troisième volume. Apparemment, votre idée, Romain Slocombe, c'est de traverser toute cette période noire de l'histoire contemporaine française, c'est-à-dire les années de l'occupation jusqu'à la libération, jusqu'à l'épuration.
C'est bien ça.
Ce oui, qu'on a dit la dernière fois que je vous ai invité pour le deuxième volume.
C'est mon intention de faire un portrait de ces sociétés assez horribles d'ailleurs, que après la libération on a voulu gommer, on a voulu effacer toutes ces histoires de lettres de dénonciation, de collaboration effrénée, de trafic, etc. Et redorer un peu le blason de la France. Mais c'est vrai que quand on se plonge dans, comme je le fais, dans les archives de la préfecture de police, qu'on voit toutes
et
ces
dans
histoires
la presse
sordides,
aussi, de l'époque,
dans la presse de l'époque, dans les livres publiés à l'époque, le vocabulaire aussi monstrueux employé, enfin ces qualificatifs de youtre, de youpin, de bec crochu, etc. Je parle même d'un journal qui avait lancé un concours pour les lectrices de la meilleure idée pour se débarrasser des juifs et les solutions les plus extrêmes étant admises. Donc c'est quelque chose d'assez atroce qu'on a voulu oublier. Moi je veux le sortir un petit peu comme Jean Dutour au Bombeur avait montré ses commerçants, ces crémiers qui s'enrichissaient, etc. Ben, je veux montrer aussi comment vivaient les Français et comment la plupart d'entre eux, ceux qui n'étaient pas dans la résistance, ben, finalement, ils pensaient surtout à eux-mêmes.
Alors, on comprend tout de suite, après vous avoir entendu Robin Slocombe, que c'est beaucoup plus un prétexte, le polar, hein, puisqu'il y a effectivement des intrigues, il y a des enquêtes, il y a l'atmosphère aussi des flics en train d'enquêter. Mais ce que vous voulez, d'abord, c'est restituer la France occupée.
Tout à fait, oui, et montrer aussi comment on s'est aussi débarrassé des juifs, parce que par exemple Drancy, tout le monde sait que Drancy en banlieue parisienne était l'antichambre d'Auschwitz, mais personne ne sait vraiment comment ça se passait dans ce camp, comment se passaient les départs en déportation, qui c'est qui choisissait les listes, qui donnait les noms des 1000 personnes que réclamaient les Allemands, et aussi le rôle abominable des directeurs de la police, de l'administration de la police, comme Jean-François par exemple, qui avait exigé que pas plus de 2 juifs par autobus puissent prendre le bus 51 à Jean Jaurès pour aller porter les colis à la famille, etc.
Alors, toute cette description historique est présente. Les intrigues sont là, mais le véritable suspense de cette série que vous avez lancée, Romain Slocombe, je reviens à ce que je disais en début d'émission, c'est ce Sadorski. Il est suffisamment intelligent pour pouvoir échapper au jugement de l'histoire. Parce qu'on sait très bien que l'histoire se passe en 1943. Plus personne ne se fait d'illusions. Hein. Tout le monde sait que bientôt l'Allemagne nazie sera vaincue. Il s'arrange toujours pour s'en sortir. Mais peut-être qu'il va échapper au jugement de l'histoire.
Alors bon, je raconte pas évidemment comment cet ouvrage se termine, ni la série en général, mais
c'est ça le vrai suspense. Ouais, on est d'accord,
tout à
vous
fait.
Tenez le lecteur avec ça, en disant ce salaud, il va peut-être sauver sa peau, parce qu'on voit déjà les retournements de veste dans ce volume.
Oui, bah il a un collègue par exemple qui commence à prendre ses précautions, etc.
Et il a bien intégré que la guerre est en train de tourner.
Bien sûr, bien sûr. Sadorski, il veut même pas y penser en fait, parce qu'il a un côté fonceur comme ça. Mais le malaise que je m'amuse aussi à créer chez le lecteur, c'est que j'ai beaucoup de retours de lecteurs qui me disent c'est le personnage le plus odieux que j'ai jamais eu comme lu en tant que lecteur, comme personnage principal, et en même temps je peux pas m'empêcher de tourner les pages pour savoir ce qui va lui arriver. Alors il y en a évidemment qui lui souhaitent le pire, mais d'autres au contraire qui vont se mettre quelque part involontairement de son côté et se retrouver justement dans ces histoires où puisqu'il va devenir criminel en fait dans ce roman, et quand on suit un criminel un peu comme dans les romans de Patricia Highsmith par exemple, finalement on est avec lui et le suspense fait qu'on a envie qu'il s'en tire quelque part.
Alors vous avez raconté un peu l'atmosphère de la société française et plus particulièrement le Paris occupé de l'époque. Là, vous évoquez un peu plus que dans les deux précédents la vie culturelle foisonnante qu'il y avait alors.
Je voulais beaucoup parler du cinéma français sous l'occupation, qui est un cinéma assez extraordinaire, parce qu'il y a énormément de navets, mais il y a également des chefs-d'œuvre et puis beaucoup de films qui sont un peu entre l'un et l'autre, mais il y a une atmosphère extraordinaire dans ce cinéma. C'est un peu un cinéma maudit parce que beaucoup des réalisateurs on leur a reproché d'avoir travaillé sous l'occupation, d'avoir travaillé notamment pour la Continentale, qui était la grosse société de production qui travaille avec des fonds allemands, avec un directeur allemand et qui avait beaucoup d'argent, donc ils employaient les meilleurs scénaristes, comme Clouzot par exemple, qui était le scénariste en chef, et les meilleurs acteurs, les meilleurs réalisateurs, et donc notamment, et c'est pour ça que j'ai donné ce titre Sadorski et l'ange du péché au roman, c'est quand j'ai découvert dans un livre sur Jean Giraudoux que Giraudoux a fait le scénario d'un film tourné en 43, justement à l'époque dont je voulais parler, en mars-avril 43, et que ce film, qui était le premier long métrage de Robert Bresson, s'appelait les Anges du Péché, et il est tourné dans un couvent de, enfin au studio des Buttes-Chaumont en fait, mais dans le décor d'un couvent de dominicaines, et il n'y a que des femmes toutes habillées en religieuses, et bon, ça me plaisait aussi beaucoup.
Oh, pardon ma sœur, elle vous a toute tachée.
Ça ne fait rien.
Elle l'a fait exprès. Elle a vu du blanc, elle a voulu tacher, c'est tout elle.
Pourquoi ne lui avez-vous pas parlé, ma mère?
Parce qu'elle ne voulait pas de ma parole. Cette fille est dans une crise où la parole est l'arme de ceux qui commandent, qui punissent, qui insultent la douleur. C'était une rangée parmi eux que de lui dire un mot. La gardienne parlait, nous prenions la suite de la gardienne.
Vous blâmez mon geste?
Vous non plus ne lui avez pas parlé.
Voilà, c'est un extrait du premier film de Robert Bresson, Les Anges du Péché, film sorti le 23 juin 1943, donc vous êtes très précis hein, pour les dates, Romain Slocombe, un film qui va être autant primé que Les Visiteurs du Soir, qui reste quand même le classique de l'époque. Ce film, par exemple, Les Anges du Péché, je ne l'ai pas vu.
Oui, et d'ailleurs, il y avait un DVD, mais qui est indisponible. Enfin bon, j'ai réussi à le voir quand même. Et c'est un assez bon film. Et le début et la fin sont absolument formidables. Et la photographie en noir et blanc est extraordinaire. Les actrices, il y a tout un groupe d'actrices formidables. Il y a la prieure jouée par Sylvie, mais il y a aussi Janine Holt, que j'adore, qui joue la voleuse endurcie, celle qui a assassiné son ami et souteneur et qui vient se réfugier dans le couvent après avoir commis ce meurtre. Il y a René Faure qui joue la jeune bourgeoise un peu exaltée qui a voulu rentrer au couvent pour sauver des âmes en perdition. Et puis aussi...
Mais c'est pas un film de propagande, soyons clairs.
Non, 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 pas
il
du
a été
tout.
Tourné sous occupation dans les studios des Buttes-Chaumont, je suppose.
Ouais.
Mais c'est pas du tout un film.
Non, non, bah, de toute façon, il y a assez peu de films de propagande réelle à l'époque. Mais simplement, il y a quelques films un petit peu, comment dire, un peu nunuche, comme le Voile Bleu ou des choses comme ça. Mais, et puis aussi beaucoup de films à costume, des films d'époque où on s'évade et justement, on essaie de ne pas parler de la politique pour ne pas se faire censurer. Mais là, il y a un côté assez polar, c'est-à-dire que ces dominicaines, en fait, faisaient de la réinsertion sociale avant l'heure, c'est-à-dire que elles allaient en fait aux portes des prisons quand elles savaient qu'une jeune femme allait être libérée, et elles la kidnappaient presque avant que leur mac remette la main dessus, et elles les emmenaient au couvent pour en faire des religieuses.
Donc en 1943, deux grands films français vont être primés par le jury du Grand Prix du film d'art français. Les Visiteurs du Soir, que tout le monde connaît, de Carné, et puis ce premier film de Robert Bresson, Les Anges du Péché. Et ce n'est pas rien de rappeler que dans le jury qui va attribuer ces prix, on retrouve un certain Lucien Rebatté, c'est-à-dire, pour reprendre la description de votre Sadorski, le pire des salauds et le meilleur des critiques cinéma.
C'est vrai que sous le pseudonyme de François Vineuil, il faisait d'excellentes critiques. Il a écrit un livre assez étonnant sous la guerre qui a été un best-seller qui s'appelait Les Décombres. Plus tard, il a écrit un roman que j'ai pas lu mais qui a très bonne réputation qui s'appelle Les Deux Étendards. Par contre, au niveau crapule antisémite, enfin lui et Céline, je pense que ce sont, je sais pas lequel est le plus odieux des deux dans leur attitude sous l'occupation.
Et puis vous parlez aussi de la lâcheté de l'administration française de l'époque en 1943, alors que tout le monde parle du débarquement, des alliés qui vont revenir, d'un retournement du rapport des forces. On décide d'épargner les juifs français parce qu'on sait jamais. Mais en revanche, les juifs étrangers ont continué à appliquer les lois nazies.
Voilà, c'est une chose qui est assez peu connue. Pour simplifier, les Allemands, ils se fichaient de savoir si les juifs qu'ils allaient emmener à Auschwitz pour servir d'esclaves étaient nationalité française ou immigrés récents de Pologne. Tout ce qu'ils voulaient, c'était 1000 juifs par convoi. Et l'administration française, évidemment, surtout à la période de 43, a commencé à se dire « Oui, mais dans les Juifs français que nous avons déportés déjà dès le début, hein, même s'ils étaient moins nombreux parmi les déportés que les Juifs étrangers, immigrés, notamment polonais, ces gens-là, quand même, les Israélites français, c'est les grandes familles, des banquiers, des avocats, des médecins, etc., des collectionneurs de tableaux, tous ces gens-là, on les a envoyés dans un endroit dont paraît-il, on ne revient pas vivant. Eh ben, ces gens-là, ce sont des grandes familles, ils ont de quoi payer les avocats, etc. Peut-être qu'à la libération qui est assez proche, ils vont se retourner contre nous, exiger des comptes, etc. Et donc, il y a eu un marchandage absolument sordide entre les SS et Laval. Déjà, Laval qui avait fourni les enfants à l'été 42. On s'est dit, finalement, ce qui compte, c'est le total. On va arrêter de déporter des juifs français, mais comme il faut quand même des juifs, dans les ghettos de l'Est parisien, bon, il n'y a plus beaucoup de juifs polonais d'âge normal, mais il y a encore les vieillards, par exemple. Et il n'y avait pas de limite d'âge. Et donc, en février 43, par exemple, il y a eu une énorme rafle de gens qui étaient au-delà de 80 ans. Donc, les policiers et les gendarmes de Drancy et les autres internés ont vu arriver absolument effarés des gens extrêmement âgés, certains pratiquement grabataires, qu'on amenait à Drancy pour les faire partir le plus vite possible sur le prochain convoi. Et des convois qui étaient quelquefois aussi pour destination encore pire, si l'on peut dire, que Auschwitz, parce qu'au mois de mars sont partis des convois pour Majdanek et Sobibor. Et là, en fait, on n'exterminait pas les gens au Zyklon B. Exposé au Zyklon B, on meurt au bout de 30 secondes, à peu près, une minute peut-être, mais au gaz produit d'échappement de moteurs diesel. Et là, ce sont des agonies qui peuvent durer 30 minutes. Et c'était l'administration française qui envoyait ces gens-là, parce qu'évidemment, il fallait fournir le plus possible de juifs, et donc les services, la direction des étrangers des affaires juives, à la caserne de Cité, à la préfecture de police en plein centre de Paris, ils avaient un expert, le professeur Montandon, qui était une espèce de fou, et qui voyait des juifs partout, et on faisait expertiser les gens par lui. Et par exemple, quelqu'un qui avait un nom, Cohen, Dreyfus, etc., qui voulait se faire renouveler sa carte d'identité, on le faisait expertiser. Et si ce demi-juif, c'est un cas réel d'ailleurs dont je parle dans le livre, avait un père juif et une mère française, arienne comme on disait, etc. Si le professeur Montandon déclarait que ce monsieur était 100% juif, ça voulait dire que sa mère était juive également, puisque le fils était 100% juif. Donc une malheureuse arienne, donc qui normalement n'aurait pas été déportée en Berlin, on lui aurait fichu la paix chez les nazis, l'administration française l'envoyait à Drancy pour qu'elle se fasse également gazer avec les autres.
Et de tout cela, Sadorski est au courant.
Il le découvre. En fait, il le découvre un petit peu parce que tout le monde ne savait pas, ou plutôt on savait à des échelons divers. Et Sadorski, il s'en fiche totalement. Il déteste les juifs. Donc les hommes juifs soient renvoyés à l'Est, etc. Pour lui, il pense c'est bien fait. En revanche, quand il voit des jeunes filles, des enfants, des bébés, etc., quand on voit par exemple que le fameux Bousquet, secrétaire général de la police, donc ministre de la police, si l'on peut dire, sous Vichy, il a abaissé l'âge de déportabilité des enfants de 2 ans. En dessous de 2 ans, normalement, on ne pouvait pas être déporté, à 6 mois. Et les femmes enceintes, dont je parle également dans le livre, les femmes enceintes, jusqu'à 8 mois de grossesse, pouvaient être envoyées à Auschwitz pour être gazées. Donc il s'aperçoit de ça petit à petit, et puis il y a des choses qui lui plaisent pas. Et puis il va rencontrer un vrai nazi 100%, un Allemand, qui est un personnage assez démoniaque. Et ce flic qui fouine partout et qui menace la jeune juive que protège Sadorski, lui, il va lui raconter un peu ce que son détachement a fait en Pologne, dans une forêt notamment. On va parler de la Shoah par balle. Et là, quelque part, l'idée qu'un policier puisse entrer dans une maison, prendre un bébé par les pieds et lui fracasser la tête contre un meuble sous les yeux de sa mère, ça le choque quelque part. Et donc, il va devenir petit à petit une sorte, c'est-à-dire son côté justement un peu révolté, un peu loup solitaire, extrêmement violent. Il va finir par réagir et finalement décider, il y a des gens, on peut pas sauver tout le monde, on peut pas s'occuper de tout le monde, mais il y a 2 ou 3 personnes que j'ai envie de sauver et je vais le faire.
Très souvent, alors que ce flic est incroyablement infect, il y a des moments où vous essayez de lui redonner un peu d'humanité, ne serait-ce que en rappelant ses origines tunisiennes.
Oui, parce que c'est un pied noir, c'est un fils de fermier. Quelque part, il se considère justement comme... c'est pas du tout un anti. D'ailleurs, il fait partie de ces gens qui, quand il y a eu l'émeute du 4 février, du 6 février 1934, il faisait partie des gens qui ont marché sur l'Assemblée nationale parce que contre le régime des pourris, etc. Donc c'est quelque part c'est quelqu'un qui vient d'une famille modeste qui est un petit peu méprisé finalement parce que il fait pas du tout partie de ces grands bourgeois. Il va se retrouver invité chez une grande bourgeoise. Il a qu'une envie, c'est de s'en aller plutôt que de prendre le thé chez elle. Et quelque part c'est vrai que le lecteur va se dire finalement on peut pas être, c'est un personnage assez complexe et on peut pas être méchant tout le temps et avec tout le monde. Je pense que même les pires criminels, si son grand-père font sauter avec amour leur petit enfant sur leurs genoux.
Vous avez un modèle pour ce Sadorski. Est-ce qu'un personnage vous a inspiré un personnage réel, hein?
Alors, il y a eu un personnage qui avait le même grade que lui, qui travaillait dans le même service, qui s'appelait Louis Sadowski. Et donc, qui a laissé des traces dans les archives de la préfecture de police, aux archives nationales, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur lui quand on va dans les archives ou quand on lit les livres d'historiens qui ont parlé de lui. Je me suis emparé un peu de ce personnage, mais j'ai changé son nom, en créant un personnage assez emblématique de l'administration française, mais qui puisse également être un personnage de roman policier. De même que Philippe Kerr avait fait son personnage de policier allemand, Bernie Günther.
Et cette période noire de l'histoire française, elle vous concerne? Elle a touché votre famille, Romain Slocombe?
Alors, j'avais une grand-mère juive qui était réfugiée en Angleterre, donc elle a fait l'exode avec mon grand-père anglais, et donc elle a vécu le Blitz en fait à Londres sous les bombes allemandes. Et mes parents sont partis en Amérique, donc ma mère a franchi la ligne de démarcation dans des circonstances absolument extraordinaires. Elle a montré son passeport britannique à un jeune officier allemand qui, au lieu de l'arrêter tout de suite, l'a laissé passer. Donc peut-être que je dois d'être ici, je suis né après la guerre, au fait qu'elle a pu retrouver mon père grâce à cet officier allemand qui justement lui n'a pas interprété les consignes d'une manière généreuse plutôt que sévère.
Et écrire aujourd'hui sur cette période avec ce personnage, Léon Sadorski, c'est parce que c'était le moment d'en parler ou parce que vous êtes dans un âge où vous voulez transmettre une histoire ou plutôt parce que l'actualité vous suggère de revenir sur cette période-là précise, Romain Slocombe?
Alors c'est à la fois l'un et l'autre. C'est-à-dire que d'une part, je considère que si tout avait été dit d'une manière honnête, assez rapidement, je penserais qu'il n'y a pas besoin de faire un travail de mise au point et de faire surgir vraiment les choses qui se sont passées. Mais en fait, plus de 70 ans après, on se rend compte que finalement, beaucoup de choses n'ont pas été dites, notamment le rôle de la police française. Et puis d'autre part, c'est vrai que ce qu'on disait des Juifs à l'époque, c'était quand même ceux qui ont le plus... souffert justement de la déportation, c'était quand même les immigrés de fraîche date, c'est-à-dire les gens qui étaient dans l'est de Paris, des familles entières qui travaillaient dans des ateliers minuscules, il y avait des tailleurs à domicile, des gantiers, des fourreurs à domicile, etc. C'est des gens qui vivaient dans une pauvreté incroyable, qui ont été les premières victimes, mais il y avait évidemment un rejet contre ces gens, aussi la concurrence, même des syndicats de gauche protestaient, communistes et autres, protestaient contre la concurrence d'ouvriers étrangers qui venaient, qui cassaient les prix, qui travaillaient pour moins cher que les ouvriers français. Les avocats et les médecins s'inquiétaient de la concurrence de ces Israélites étrangers, etc. Et donc, ça rappelle évidemment quelque chose, parce que la France est un pays où les gens, pays riches, où arrivent les gens les gens pauvres qui viennent d'autres pays, et souvent ils sont pas blonds aux yeux bleus comme nous, quoi.
Je ne suis pas tout à fait blanc aux yeux bleus, hein. Il n'a pas échappé ce détail.
Je vous ai repéré tout de suite.
Zadorski et l'ange du péché, c'est le troisième tome de cette série publiée par Robert Laffont dans sa collection noire, c'est-à-dire La Bête Noire. Merci beaucoup d'être passé ce matin, Robin Slocombe.
Merci à vous.
Le Réveil Culturel est une émission qu'on peut écouter à la radio en direct tous les jours de 6h à 6h30 ou quand vous voulez, en passant par la réécoute ou l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Prise de son aujourd'hui, Fabien Capel, coordination Corinne Amard. Le Réveil Culturel est une émission réalisée par Vincent Abouchard. À demain.